sur Aligre FM avec Jean-Marc Gélin.
Et Cécile Flamou. Il faut que je refasse les menus. Et oui, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs qui m'ont surpris parce que je pensais que le morceau allait s'enchaîner. Eh bien, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Alors, vous savez, on dit des fois... tout est politique. Alors c'est une phrase qui, bon, des fois, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que c'est une phrase un petit peu partout, passe partout. Mais aujourd'hui, c'est une émission poétique politique et poétique à la fois. Bernard Lubat, il dit poélitique, lui dit Bernard Lubat. Mais surtout, c'est une émission qui est une émission de jazz. Hein, je vous rassure, vous êtes bien sur Jazzland à l'IRFM 93.1, mais une émission littéraire. C'est-à-dire que nos invités, aujourd'hui, sont des invités qui rendent hommage à des écrivains et des poètes. En première partie d'émission, nous avons l'immense honneur de recevoir une clarinettiste qu'on adore et qui vient de sortir un album qui est beaucoup plus qu'un album, c'est un ouvrage qui incite vraiment, qui amène à l'intelligence. Ouvrage dédié à Octave Mirbeau, on va en reparler. Elle est clarinettiste et je lui laisse dire son nom elle-même.
Bonjour Jean-Marc, c'est Catherine Delaunay.
Bonjour Catherine. Et en deuxième partie d'émission, pareil, c'est un hommage à non pas à un écrivain, mais à un poète kosovar. Il est accordéoniste et il a écrit, il sort un petit peu, il vient de sortir de sa zone habituelle pour signer une œuvre là aussi, puisque c'est un requiem, et donc on est vraiment à la frontière du jazz et de plein d'autres musiques. Il est accordéoniste, et pareil, je vais essayer de dire son nom.
Bonjour, je m'appelle Maxime Perrin.
Bonjour Maxime, et puis à côté de moi, qui vient parfois animer, co-animer l'émission, celle, à la limite on ne la présente plus, mais si je vais quand même la présenter. Oh non, je vais lui laisser dire son nom, tiens, voilà.
Je m'appelle Cécile Faou-Cresson. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour Jean-Marc Gélin.
Bonjour Cécile, on est ravis de tous vous retrouver. Je vous propose, Catherine, qu'on commence par vous et qu'on commence tout simplement. C'est un double album qui s'appelle L'Homme des Damps. C'est ça, j'ai bien dit, hein, L'Homme des Damps, sur le label Natto. Et l'album commence par, c'est un double album, il commence par une ouverture. Moi, je vous propose qu'on l'écoute.
Le petit village des Dents est bâti près de l'embouchure de l'Eure sur un bras de la Seine qui sépare du grand fleuve une île plantée de hauts peupliers et d'oseraies abandonnées, maintenant envahie par une flore exubérante et vagabonde. Les herbes arborescentes, les fleurs sylvestres, les plantes fluviales, les lianes ont tellement poussé, pullulé, elles se sont tellement jointes, enlacées, nouées les unes aux autres que l'île, en bien des endroits, est impénétrable et qu'elle donne l'impression d'une terre vierge, d'une jungle mystérieuse, d'une sorte d'Éden sauvage dont les maisons de village reçoivent les violents, les âpres parfums lorsque le vent souffle du nord. « du grand bras de la Seine caché par le niveau de l'île, on aperçoit que la rive droite plate, nue, découvrant par place les écorchures blanchâtres d'un terrain marneux. La plaine, ensuite, ça et là, semée de bouquets de trembles et de pommiers solitaires, s'étend en paisibles carrés de culture jusqu'à des coteaux aux souples ondulations, aux pentes orangées, couronnées de forêts, dont la tache sombre s'attendrit, se voile de bleu léger, et semble se vaporiser avec la brume qui monte, soir et matin, des nappes d'eau et des prairies riveraines. Gaiement éparpillés sur une même ligne, des villages longent le pied des coteaux et leurs toits rouges et leurs façades blanches éclatent parmi les verdures estompées. Un peu vers la droite, la plaine s'élargit, les coteaux s'exhaussent en montagne et s'ouvrent brusquement pour laisser voir un espace très lointain, très bleu et très rose, une enfoncée de vallées qu'on dirait rhumantes et légères autant que des nuées. Le spectacle de cet horizon est délicieux à regarder. Il est d'une douceur infinie, d'une lumière opaline exquise, rendue plus exquise encore par la dureté des premiers plans et la complication de leurs arabesques emmêlées. Durant les mois d'automne, le brouillard y promène ses rêves fugitifs et ses mystères changeants dans la fine transparence de ses voiles argentées. C'est un calme qui vous pénètre, qui vous détend, qui descend jusque dans les profondeurs de l'âme pour y éteindre les souffrances les mieux attisées.
Et oui, vous êtes bien sur Jazzland à Ligre FM 93.1 en compagnie de Catherine Delaunay pour la sortie de l'album L'Homme des Dumps, paru sur le label Natto. Et L'Homme des Dumps, bah, c'est Octave Mirbeau. Alors, il faut que vous nous expliquiez, parce que ce n'est pas qu'un double album, c'est aussi véritablement un travail autour de l'œuvre, comment dirais-je, multiforme de d'Octave Mirbeau, qui est à la fois un poète, un écrivain, vous vous souvenez notamment du journal d'une femme de chambre, etc. On va en citer plein, un acteur politique engagé, un ami des impressionnistes, donc très très proche de l'impressionnisme à cette époque-là. Enfin, l'œuvre d'Octave Mirbeau, elle donne pratiquement le tournis. Qu'est-ce qui vous a amené, Catherine Delaunay, après avoir passé là quelques années au sein de l'ONG, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce travail autour d'Octave Mirbeau?
Alors, j'habite dans ce fameux village, les Damps, et j'ai noué d'amitié avec Jean Rochard et Christelle Raffaelli de la maison de disques Natto depuis quelques années. Et en venant à la maison une fois, Jean a remarqué que la salle des fêtes s'appelle la salle des fêtes Octave Mirbeau, ce qui est assez singulier.
Pourquoi ?
Ben, souvent, c'est pas ce nom-là qui est donné aux salles des fêtes. Hein. C'est souvent Boris Vian Pablo Neruda sais-je. Et voilà. Et en feuilletant un bouquin sur l'impressionnisme, Jean me dit, mais quand même, c'est extraordinaire. Il y a 4 tableaux de Pissarro qui ont été peints aux dents. Ce serait intéressant de savoir quel est le lien avec Octave Mirbeau. Donc, on me voit la partie à la mairie. Et en fait, le maire à l'époque des Dents me dit en fait, j'habite la maison d'Octave Mirbeau. Il a passé 4 ans dans ce village et c'est là qu'il a commencé l'écriture du journal d'une femme de chambre, même s'il a finalisé plus tard. Et voilà. Nous voilà partis pour cette aventure qui a duré 3 ans.
Alors, vous parliez de Jean Rochard, hein, qui est le patron du label Natto, formidable label. Mais ce que vous me disiez hors micro, c'est qu'il habite dans le même village, c'est ça?
Non, ça n'a rien à voir.
C'est en venant vous voir.
Voilà, c'est en venant en visite.
Mais alors, du coup, Catherine, c'est quand on regarde votre album, parce qu'il faut dire aux auditrices et aux auditeurs, on postera des photos de l'album, ce double album, c'est un travail remarquable, mais c'est un véritable travail de recherche avec des textes. Bien sûr, vous retrouvez des textes d'Octave Mirbeau, mais des textes de présentation de Pierre Michel, c'est ça,
voilà.
Qui est un universitaire, une iconographie. aussi de l'album qui est absolument magnifique, qui rend hommage justement, qui retrace un peu le parcours d'Octave Mirbeau, c'est qu'on a dit multiforme, hein, c'est comme clin d'œil, mais comme façade du travail d'Octave Mirbeau. Mais vous, ça vous a donné un travail de chercheuse, littéralement. On a l'impression que c'est presque un travail universitaire, que la musique rencontre l'intelligence.
Oui, la musique savante, ouais. Enfin, c'est
ouais, ouais.
En plus le plaisir d'un objet qui
c'est
est particulier.
C'est un, c'est un objet à part entière du... avec un énorme livret magnifique. Et Jean, en fait, a fait énormément ce travail de recherche de littérature en collaboration avec Pierre Michel, donc qui est effectivement un universitaire qui a consacré sa vie à Octave Mirbeau, et notamment il a fait une thèse en premier lieu dans sa jeunesse. Et Jean m'a proposé par la suite, en collaboration, on a beaucoup travaillé ensemble, on a travaillé en collaboration complètement. Jean cherchait les textes qu'on pourrait mettre en musique ou illustrer ou ce genre de choses. Il m'a fait plein de propositions littéraires. Et puis on a choisi en collaboration ce qu'on avait envie de mettre en avant. Et donc on a choisi plusieurs sujets, dont la peinture évidemment, puisque Octave Mirbeau était un ami donc de Pissarro, mais aussi de Jean-François Raffaelli et de Monet bien sûr, avec qui il échangeait des graines, il parlait jardin. Voilà.
Alors justement, il y a tellement de facettes dans le travail d'Octave Mirbeau, comme je disais, ça donne pratiquement le tournis. Qu'est-ce que vous, Catherine Delaunay, retenez d'Octave Mirbeau ? L'écrivain, le poète, l'acteur politique anarchiste, l'ami des impressionnistes, le jardinier aussi,
antimilitariste aussi.
C'est l'époque. Antimilitariste, effectivement, Dreyfusard, défendant le droit à l'avortement, défendant les ouvriers, etc. J'aime tout, en fait, chez Mirbeau. Et c'est ça qui me plaît. Moi, j'aime bien, de toute façon, depuis tout le temps, j'aime bien les choses multifacettes. Et ce côté de Mirbeau me plaît beaucoup.
C'est intéressant de savoir que s'il avait vécu à cette période-là, vous seriez donc amis, puisque vous habitez...
Je pense, j'espère. Enfin, moi, j'aimerais bien être son ami, en tout cas.
C'est vrai qu'il y a le lien, on voit bien le lien d'Octave Mirbeau avec les peintres, avec les impressionnistes.
Les musiciens aussi, oui.
Et avec les musiciens, voilà.
Ah bah oui, ça. Il défendait... Il y a beaucoup de musiciens qui défendaient... Il a défendu Debussy. Il a énormément travaillé en collaboration avec des musiciens justement à l'époque. Il était chroniqueur aussi, journaliste. Il n'avait pas la langue dans sa poche. Hein. Il y a des musiciens qu'il aimait pas du tout. Et donc c'est intéressant de voir ce lien qu'il avait, ce lien extraordinaire qu'il avait avec les artistes en général.
Alors là, je vous propose qu'on fasse un focus sur la partie, sur sa relation avec les impressionnistes, et plus particulièrement avec Camille Pissarro, parce qu'il était extrêmement proche de Camille Pissarro. Et on va enchaîner deux morceaux, Lettre à Camille Pissarro, je dis à la technique, ils sont enchaînés, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, voilà, ils sont à la suite l'un de l'autre. Lettre à Camille Pissarro, et Dans le jardin de Camille Pissarro, une des versions, puisqu'il y a plusieurs, il y a plusieurs versions, parce que l'album lui-même est multifacette sur le plan musical. Mais voilà, on va écouter. Donc, Lettre à Camille Pissarro et Dans le jardin d'Octave Mirbeau. J'ai dit de Camille Pissarro, Dans le jardin d'Octave Mirbeau.
Mon cher Pissarro, vos lettres sont délicieuses et vous êtes un maître écrivain parce que vous sentez tout. Elles me ravissent, vos lettres, bien qu'il y ait toujours une tristesse en elles, la tristesse si vive que j'éprouve à voir votre talent méconnu, ce talent si clair pourtant, si éloquent et si noble, où la réalité s'accompagne de tout le rêve qui est en vous. Ah, cher ami, dans quelle sale époque nous vivons ? L'âpre argent a tout perverti, tout sali, tout déshonoré. Il a arraché, de vous à moi, le pouvoir de l'émotion. Ah oui, il faut une révolution, mais complète cette fois, pour remettre les choses en état. Tant que nous traînons notre vie dans cette société immonde, de banquiers voraces et de fonctionnaires abrutis et faméliques, il ne faut rien espérer. Tout se tient, voyez-vous. Un peuple qui accepte pour le diriger des Napoléons, des Thiers, des Broglie, des Constant, des Clémenceau, des Guèdes, ne peut vibrer au-dessus de quelques centimètres d'une pièce de 100 sous en hauteur.
Vous êtes bien sur Jazzland à Ligre FM 93.1 en compagnie de Catherine Delaunay, la clarinettiste, pour la sortie de l'album L'Homme des Damps sur le label Natto. Et là, on venait d'entendre deux morceaux côte à côte, Lettre à Camille Pissarro et Dans le jardin d'Octave Mirbeau. Voilà, c'était deux grands amis et c'était effectivement quelqu'un qui était très proche des impressionnistes. On va parler juste après de l'aspect, enfin de l'engagement politique très très fort d'Octave Mirbeau. Vous-même, dans cet album, vous avez choisi aussi d'être un peu multifacette. Je ne sais pas si vous voulez qu'on cite tous les membres de l'équipe, mais c'est kaléidoscopique, ouais. Puisque c'est tout à fait... À chaque morceau, vous changez un petit peu de formation. Il y a des piliers quand même.
Il y a des piliers avec qui je travaille depuis très très longtemps.
Tony Imas, par exemple.
Par exemple, Tony Imas, bien
qui
sûr.
Qui est aussi un pilier du label Natto, d'ailleurs.
Absolument. Ouais. Et puis, il y a des rencontres plus improbables, notamment avec les musiciens américains là, que j'ai pu, avec lesquels j'ai pu enregistrer à Minneapolis, justement, des musiciens de Minneapolis. Où là, c'était une rencontre, c'était extraordinaire.
Vous êtes allé enregistrer là-bas
Oui.
C'est parti là.
Oui. Les deux trios avec les Américains, là, j'étais...
Ah, mais c'est vrai que Tony Imas, il est très lié à... C'est
aussi.
Tony Imas, ouais.
Mais là, il n'est pas dans ce trio, dans ce quartet-là, mais...
Oui. Comment ça s'est fait, alors? Puisque c'est
en fait, pour tout vous dire, j'étais en tournée avec l'ONG.
Ah oui, d'accord. Ah.
Et il y avait des jours off, donc j'en ai profité pour faire une petite escapade à Minneapolis, bah, et enregistré, voilà.
En profiter. Ouais.
Ah oui, d'accord. L'ONG avait joué, a joué.
On a fait une tournée aux États-Unis et au Canada avec le projet Ex Machina avec Steve Lehman.
Oui.
Et voilà.
Super, on avait... c'est le dernier projet de l'ONG, c'est ouais. Magnifique.
Magnifique projet et.
En tourbus ou comment ça se passe?
Non. En train.
Ah ouais.
C'était très
d'accord.
Chouette.
Ok.
En train et avion, bien sûr.
Alors, donnez-nous quelques noms de gens qui participent sur cet album.
Je connais
déjà la clarinettiste.
Ouais. Pascal Van Danevel qui joue quatre duos avec moi là, notamment. Enfin, c'est ce qui ouvre à chaque fois. Ce double album est chapitré en quatre chapitres et à chaque fois c'est en ouverture le duo avec Pascal Van Danevel. Il y a Pierre Riccardi en trio avec Tony Imas. Il y a tous les gens qui sont sur l'ouverture. Là, c'est des fidèles aussi, bien sûr. Hélène Labarrière, François Corneloup
aussi. Voilà,
il y a Jackie Mollard qui apparaît à un moment donné. Laurent Dehors, bien sûr, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Ouais. Enfin, mais je ne peux pas citer tout le monde. Il y a trop de gens sur ce disque formidable. Il y a Régis Subi, Guillaume Roy, aussi des compagnons de très très longue date.
Ah oui, c'est vrai, ça c'est...
Et une comédienne, donc, qui dit beaucoup de textes, qui est Nathalie... Voilà, ouais, au violon alto. Il y a Nathalie Richard qui dit les textes. Voilà. Et il y a aussi une fanfare de plein de gens que j'ai rencontrés en faisant des stages, en donnant des stages, des choses comme ça. Et tous ces gens, je leur ai dit, ça vous dit de venir enregistrer au bord de l'heure, un jour de marché, un des morceaux. Et c'est un morceau qui est un hommage aux chaussonniers de Pont de l'Arche, qui est le village juste à côté des Dents. Et où Mirbeau était très engagé justement pour défendre leurs droits, leurs conditions de travail, etc. Il s'est beaucoup engagé.
C'est quoi? C'est quel?
C'est les renouvellements ouvriers, c'est dans le deuxième
disque.
Oui, d'accord.
Okay. La chanson du Père Duchêne, c'était d'Octave Mirbeau, ça?
Non, c'est anonyme, mais...
Oui, c'est ça. C'est une, voilà. Mais ça allait bien dans l'esprit.
Voilà, ça parlait l'esprit de Ravachol, qui était...
D'ailleurs, on va passer, Ravachol. Maxime Perrin, Octave Mirbeau, c'est un auteur que vous connaissez ou que...
Pas vraiment, pour moi.
Oui, hein, c'est le nom, on connaît Octave Mirbeau. Ça. On a lu le journal d'une femme de chambre, mais c'est vrai qu'on a le sentiment, et c'est aussi l'intérêt aussi de cet ouvrage, c'est que quand on a refermé ce double album et lu tous les textes et écouté la musique, on a envie de se plonger dans l'œuvre d'Octave Mirbeau. Alors, juste avant de passer un dernier morceau, donc comment s'est fait ce choix kaléidoscopique de changer de formation? Vous vouliez pas une formation un combo classique ou un big band, donc vous vouliez, c'est en fonction des morceaux que vous avez composés.
Voilà, c'était un choix de travailler avec plein de musiciens avec qui j'ai travaillé tout mon parcours musical. Enfin, il en manque plein, hein, hélas, on ne pouvait pas faire plus long, mais on a choisi avec Jean aussi, je lui ai proposé des formations et il m'a dit oui, c'est une bonne idée, ou enfin... Voilà, on a échangé beaucoup sur le rapport texte et musique aussi, et donc je lui ai proposé des formations où lui aussi m'a proposé des musiciens. Par exemple, il y a Louise Jalou qui joue dans ce disque et que je connaissais pas, c'est Jean qui m'a proposé.
Magnifique bandéoniste.
Bandéoniste, voilà.
Et comment vous allez faire alors, en format de concert?
Alors, il n'y a pas vraiment de...
C'est un duo.
On a fait quelques petits événements de sortie, en tout cas de disques en duo, effectivement, avec Pascal Van Den Heuvel, le saxophoniste, avec qui on a joué nos quatre morceaux en duo, plus j'avais arrangé un peu deux, trois petites choses. Voilà. L'autre jour, j'ai joué un solo avec Nathalie Richard, la comédienne, juste elle et moi, dans une librairie pour présenter. Et puis, on a le projet de faire un mini-concert avec une mini-formation, peut-être avec Pierrick Cardi, qui est aussi sur le disque, et compagnon de très très longue date aussi. Et peut-être Régis Hubis, s'il est là, ou Marie-Suzanne Deloy, qui joue aussi de la viole de gambe, qui est sur un des... Voilà. Tout est possible, en fait.
C'est un album extrêmement riche. Je vous propose qu'on écoute la partie un peu plus politique de l'œuvre d'Octave Mirbeau. Donc, vous avez mis en musique, c'est Au Palais, et je crois que c'est Danse pour Ravachol. Hein. C'est le titre,
c'est
Danse pour Ravachol. Voilà. Célèbre anarchiste.
Les choses vont si vite aujourd'hui, les événements se multiplient tellement qu'on ne sait plus le lendemain ce qui s'est passé la veille. Dans cet incessant et furieux défilé d'incompréhensibles spectacles qu'est la vie, et dont nul entr'acte ne nous repose, les minutes que nous vivons accumulent sur nos sensations, notre mémoire, notre conscience des amas de poussière, et elles étouffent en nous-mêmes. Notre existence se compose d'une multitude de petites tombes où ne se retrouvent de nos actions défuntes, de nos pensées mortes, de nos impressions dissoutes. Le vent d'égoïsme en a vite nivelé la place, en a vite effacé la trace.
Thank you. Bonsoir, c'est Alex Dutille dans Jazzland sur Aligre FM, tous les derniers samedis du mois, 17h-18h. C'est l'heure du plaisir du jazz.
Et oui, on va bientôt retrouver Alex Dutille, pas la semaine prochaine, mais celle d'après, avec une invitée surprise que je connais, mais que je vous dirai pas. Voilà, je le garde pour moi.
Oh, le teasing.
Catherine Delaunay, ça c'est la partie politique hein, de la docteur Mirbeau, anarchiste, qui vous parle aujourd'hui. C'est vous, c'est... personnellement.
Oui, bah oui. C'est vraiment, tout ce qu'il dit, c'est vraiment très actuel et c'est hélas...
Toujours vrai, oui.
Je le crains.
Maxime, ça parle à votre côté anard.
Oui, sans problème.
Sans problème.
l'homme révolté.
Alors, juste pour conclure, Catherine, on pourrait peut-être dire un mot de la personne qui a fait toute l'iconographie, l'illustration de cet album, parce que l'illustration est absolument magnifique. Encore une fois, on ne sait pas s'il faut le mettre dans sa bibliothèque ou son discothèque. C'est vraiment un bel ouvrage aussi.
C'est Nathalie Ferlu, qui est aussi une compagnonne. Une compagne de route de Nato depuis un petit moment et qui est une illustratrice absolument extraordinaire, qui a fait beaucoup de bandes dessinées, enfin qui a fait beaucoup de choses. Et là, c'est vrai que l'objet de l'homme des dents est vraiment de l'art à part entière.
Exactement. D'ailleurs, on pourrait presque imaginer, je ne sais pas, je suis en train de rêver, mais un livre d'art, vous voyez, un grand format.
Ce serait formidable.
Ah ouais, ça serait bien. Bah, ça coûte un petit peu de sous quand même à faire.
La vie aux amateurs.
À réaliser. Et puis, comme on va en parler avec Maxime tout de suite, mais aussi, il y a une vraie scénographie à imaginer autour de votre projet, parce que voilà, il dit beaucoup de choses. Et puis, en concert, on peut imaginer beaucoup de choses illustrées sur scène. Voilà, c'est moi qui suis en train de divaguer, parce qu'en même temps aussi, que la musique se suffit en elle-même. C'est-à-dire que vous pouvez oublier aussi complètement le support et écouter cette musique absolument remarquable avec des musiciens qu'on adore. Absolument. Bravo Catherine, vous restez avec nous, on va passer dans un autre registre. Là aussi, c'est une œuvre, puisque on sait pas comment on va la qualifier, il va nous le dire, Maxime Perrin, mais c'est aussi un hommage à un écrivain, en l'occurrence un poète. Maxime Perrin, bonjour, rebonjour. Vous avez composé un requiem.
Ouais, j'y croyais pas non plus.
Vous y croyez pas non plus. Eh ben, vous savez quoi, je propose qu'on découvre tout de suite votre œuvre en découvrant un Kyrie. C'est votre côté, ça c'est pas votre côté anard, hein, le Kyrie.
Oh,
vous êtes fait violence là.
C'est le gâteau anard.
Ça s'appelle l'infiltration, ça. Monsieur.
D'accord. On y va. Thank you. Eh bien oui, vous êtes bien sur Jazzland, on dirait pas, hein, mais si, vous êtes sur Jazzland, à Ligre FM 93.1, en compagnie de Maxime Perrin, pour la sortie de ce Requiem. Maxime Perrin, qu'on avait l'habitude d'entendre dans d'autres registres, vous êtes attaqué un Requiem avec les codes du Requiem, en prenant des aspirations qui viennent de partout, vous avez tout mélangé. Et voilà, et là on vient d'entendre effectivement Requiem. On se disait hors micro, enfin je vous disais hors micro, ça y est, les accordéonistes ont leur place dans les orchestres classiques.
Oui, après notre place elle est toujours à construire, mais il y a déjà plein de gens qui œuvrent pour que l'accordéon arrive à sa juste place.
Alors vous allez nous raconter comment vous avez travaillé, mais avant parlez-nous de la genèse de ce projet, puisque je disais que c'était un projet qui était lié à un poète kosovar. Vous laissez prononcer son
Ali
nom.
Ali Podremir.
Donc en fait, exactement comme vous avez dit.
L'histoire complète, c'est
qui disparut mystérieusement dans la forêt.
C'est ça. Et ce qui est assez ouf dans toute cette histoire, c'est que Marc Delouze, qui est un poète avec lequel je bosse depuis plus de 20 ans, qui a toujours fait des lectures musicales, et je l'ai beaucoup accompagné. Et donc Marc était directeur du festival des Voix de la Méditerranée à l'Odève. Et c'est lui qui invite Ali Podremia à venir lire en 2012 des textes. Et c'est sur ce festival, Ali disparaît dans la nature, mais vraiment au sens littéral. Personne ne sait où il est, et on l'a retrouvé 3 jours après, mort, au milieu d'un champ, les yeux tournés vers le ciel, les bras en croix. Et
on a une incantation, paraît-il.
Ouais, on n'a jamais su. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Et Marc, ça l'a profondément marqué. Donc il a écrit tout un texte qui s'appelle Requiem pour Ali, qu'il a publié, qu'on avait fait une première ébauche de musique sur ce texte-là. Et après, on s'est rapproché de l'ambassade du Kosovo, qui est à Paris. Et on s'est dit, mais faisons une œuvre plus grande.
Plus monumentale.
Voilà. Et Requiem, je me suis dit, c'est l'occasion d'aller se confronter un peu à ce monde classique. Moi, je viens de là, je suis passé par une formation conservatoire, Sorbonne, tout ça, donc j'avais quelques notions de comment ça marche. Et après, mon esprit foutraque et anarchiste, et rugbyman, et balkanique.
Non, je dirais que c'est un peu votre esprit Octave Mirbeau. Vous abolissez toutes les frontières entre les arts, voilà, c'est qui vous incite.
Est-ce que sous la Seine, est-ce que sous le pont Mirbeau coule la Seine?
Ah oui, d'accord.
C'est une grande question.
C'est toujours Mirbeau qui vient en tête. On parlait des différentes parties d'un Requiem, hein, le
c'est ça, donc j'ai pris vraiment fait le corpus du Requiem.
Oui, le Requiem, c'est codifié, en fait.
C'est ça, bien sûr.
Vous avez un Kyrie, voilà, nous sommes tous.
Que ça soit Mozart, Verdi,
absolument.
Ou même des gens beaucoup plus récents, il y a toujours ces parties-là, et le texte est en latin et ne change pas. Et ce qui m'intéressait, c'était de justement confronter ce requiem, vraiment de prendre au mot la forme requiem et de rajouter dedans un peu tout, c'est-à-dire le côté balkanique avec la clarinette basse ou le hautbois. Là, le côté...
Vous allez nous dire qui sont les musiciens qui participent.
J'ai entendu une belle voix de mezzo-soprano.
C'est ça, ouais. Hein, Clara Schmidt, qu'on a bien entendu sur le Kyrie, qui fait une belle carrière d'ailleurs. Là, alors, ça n'a rien à voir avec le Requiem pour l'instant, mais en tout cas, elle était aux Folles Journées de Nantes et elle va chanter à Tokyo là bientôt. Enfin voilà, elle fait un travail formidable et elle m'a beaucoup aidé justement sur les parties de voix lyrique. Parce que j'avoue que j'étais pas un expert là-dedans, mais pour le découpage des mots, sur la prononciation en latin, moi je réfléchis comme un musicien et pas forcément comme un chanteur.
Bien sûr, ouais.
Donc je suis pas en train de dire que les chanteurs ne sont pas des musiciens, je ne l'ai pas dit.
Et non, vous avez une autre chanteuse.
J'ai une autre chanteuse, ouais, mais elle est italienne et punk. Donc en vrai, elle s'en fout de ce qui est écrit. Elle fera quand même à peu près ce qu'elle veut. Et c'est ça qui est bien, ouais, parce que ça mélange vraiment les univers. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à la formation. Tout à l'heure, hors micro Paris, on se disait comment ce genre de projet peut tourner. C'est un grand ensemble. Enfin, on est 10, donc on sait que c'est compliqué aujourd'hui de faire tourner 10 musiciens. Et donc j'ai réfléchi de manière à ce qu'on ait ce côté classique par le quatuor à cordes, qu'on ait l'accordéon qui fasse lien entre tout ça, les deux voix, donc la voix de mezzo et la voix un peu plus trash, la voix de Marc qui récite son texte aussi et qui prend la parole d'Ali aussi des fois. Et après je me disais, clarinette basse, moi j'adore ça, j'ai un duo avec Samuel Thézé, donc voilà, c'est mon compagnon de toujours lui, donc je voulais qu'il soit présent. Et je cherchais un dernier instrument qui pouvait peut-être faire le lien. Et le hautbois m'est apparu en me disant, ben, le hautbois en classique, c'est un instrument qu'on reconnaît directement. En jazz, il y en a un peu, mais c'est
pas tant.
Voilà, Fillon, voilà, c'est ça.
C'est le seul, oui, c'est une niche.
Ouais. C'est ça. Et donc, tout est parti de là, de ce mélange-là.
On écoute un deuxième morceau. Je propose qu'on écoute, est-ce que j'y vais arriver à lire, Dies Irae.
La Dies Irae. Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire, quoi,
c'est du latin, c'est des parties de la messe.
D'accord, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pas grave.
Mécréant.
Vous êtes bien sûr Jazzland de Ligre FM 93.1 en compagnie de Maxime Perrin pour la sortie de Requiem for Ali, paru sur le label.
Il n'y a pas de label, c'est ma production, c'est Musique... Max Azzurra production. Par contre, c'est édité par Music Box Publishing.
Par Music Box Publishing.
C'est l'autoproduction, comme ça arrive souvent dans la musique et dans le jazz en ce moment.
Alors là, chères auditrices et auditeurs, vous étiez peut-être un peu perdus. Et c'est normal, c'est le but, en fait, puisque vous êtes passé de quelque chose d'un peu... Un peu pas déjanté, si on va dire un peu déjanté, avec la voix de Tiziana, et puis qui après revient à un format beaucoup plus classique. Ça vous inspire, Catherine? Vous verriez bien prendre la clarinette, là?
Avec plaisir.
Mais voilà, quand Samuel ne sera pas là, parce que je sais que vous êtes fidèle.
Ouais, moi, je suis assez adepte de mélanger les deux, de prendre deux clarinettistes basses.
Ah bah, voilà. Voilà.
Pas de compromis.
Voilà, excellent. On parlait, Cécile, il y a donc, bon, derrière cette œuvre, il y a cet hommage à ce poète, Ali, Requiem pour Ali. Il y a une phrase que vous avez...
Moi, j'étais particulièrement sensible parce que je voyais ces mots et j'en parlais donc à Maxime. C'est quelques mots d'Ali. Si je ne t'écris pas, mon cher ami, et si tu n'entends plus ma voix, prends un œillet et cherche ma tombe quelque part dans le monde. Voilà. Je pense que c'était important de les dire, ces mots.
Ouais. Oui, là, il y a plein de jolies choses. C'est très imagé, un peu sombre. Toute la poésie d'Ali est sombre.
Vous êtes replongé, vous, dans la poésie d'Ali. Vous disiez qu'il y avait des choses presque prophétiques.
Il y a plein de choses qui sont prophétiques, que j'ai mis d'ailleurs dans le Requiem, quelquefois en albanais ou en français, par rapport au sens, parce que c'est aussi multilangage, ce Requiem. Il y a le corpus qui est en latin, il y a l'albanais, il y a le français, il y a un peu d'italien dialecte, parce qu'il y a deux extraits de Pasolini, mais pareil, qui résonnaient vraiment avec l'histoire. Donc pour moi, c'est une œuvre qui peut être écoutable par tout le monde. Et même si on piche pas la langue, je pense que ça marche quand même, et que la langue presque devient accessoire. Juste avant de venir là, par exemple, j'ai fait du hip hop tunisien, accordéon voix à la fac de Paris 8, et voilà, ça prouve bien qu'on peut tout faire tout et n'importe où.
D'accord, mais pas n'importe quoi. Mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières dans l'écriture de ce Requiem?
Ça a pris un peu de temps quand même. Ouais. Je crois que j'ai mis 7 mois à écrire l'œuvre. Et puis ouais, il y a des doutes forcément, parce que moi, généralement, j'écris pour des formations un peu plus petites ou pour des spectacles. Donc il y a souvent un résultat qui doit être assez rapide. Là, il y a le temps de la réflexion, il faut vraiment se dire, ce que j'ai écrit il y a 6 mois en introduction et ce qui est à la fin, là...
Est-ce que c'est raccord?
C'est ça, je ne suis pas le même bonhomme, en fait. J'ai traversé plein d'autres trucs. Donc, il y a eu un travail de relecture du tout, de rééquilibrer certaines choses.
Presque d'étalonnage, comme on dit.
Ouais, c'est ça. Et puis après, des fois, on écrit des trucs et on se dit, ça, c'est un peu long, peut-être que ça ne sert à rien. Et puis, il faut équilibrer entre tous les musiciens. Moi, j'ai essayé de me dire que chaque musicien a vraiment son importance propre et qu'il a des grands moments à lui, en fait. C'est pas, même dans le quatuor à cordes, dans l'écriture, c'est pas parce que t'es altiste que tu vas juste tenir des rondes pour faire voum 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 dessous, quoi.
Chaque musicien a son moment.
Comme pour Catherine, vous proposez des albums qui ont pour moi le grand mérite, je pense aussi pour toi aussi, Cécile, de nous sortir un petit peu des sentiers battus, de ce qu'on a l'habitude. On est dans une émission de jazz, mais elle pourrait être aussi, on pourrait dire aux gens, vous êtes bien sur France Culture, etc. Mais vous voyez, l'ouverture est à un public très 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 large, et qui en même temps est un peu inclassifiable. Vos deux ouvrages sont un petit peu inclassifiables. Ça ne vous pose pas des problèmes pour être programmé par rapport au programmateur? Comment vous envisagez la promotion de ces albums sur scène? Catherine?
En ce qui me concerne, quand on me pose la question du genre ou de la classe ou du tiroir,
on s'en fout,
je dis comme Eric Grolot le disait très bien, On est des musiciens de musique.
Oui.
Voilà, c'est
bien
tout.
Bien sûr. Mais une fois qu'on a dit ça, Catherine, c'est vrai que on est d'accord. C'est pour ça que voilà, vous êtes ici aujourd'hui. Mais il y a quand même beaucoup de programmateurs qui sont campés dans des chapelles.
C'est vrai. Des mais il y en a aussi beaucoup qui sont pas campés dans des cases. Et super. C'est sur cela qu'on s'appuie.
Ah ben, génial. Donc ça veut dire qu'on va avoir la chance de vous entendre prochainement. Là.
À fond.
Ah. Génial.
Est-ce qu'il y a une adaptation d'ailleurs, Maxime, parce que tout à l'heure Catherine parlait d'une adaptation en duo ou en...
Alors en duo non, après une forme plus réduite oui peut-être, ça va dépendre. Après je pense que c'est aussi un projet qui peut voyager et peut-être de faire des collaborations avec des musiciens locaux, par exemple le quatuor à cordes, il y a peut-être moyen de trouver un quatuor à cordes là-bas ou qu'on joue. Donc,
oui, voilà.
Mais à la base, ça serait quand même de tourner avec l'équipe.
Et d'ailleurs, est-ce que au Kosovo ?
Au Kosovo, oui. Mmh. Bah on est en train de travailler sur la tournée. Ça va se faire en 26. Logiquement, dans l'année, on est censé y aller.
Qui, comme vous disiez, a perdu un super poète.
Hein. Un de leurs plus grands poètes. Alors après, il y a des très grands poètes albanais, mais des poètes kosovars, là, pour le coup, beaucoup moins.
Alors, on parlait du temps de maturation de cette œuvre. Il y a le temps de maturation pour vous, mais il y a aussi le temps de maturation pour Marc Delousse. Parce que la mort d'Alice est en 2012, là on est en 2026, c'est-à-dire lui-même aussi a pris du temps pour écrire.
Le texte, il l'avait écrit relativement vite après, je pense un peu comme un exutoire.
Et qu'est-ce qui lui a amené l'idée de vous dire maintenant, Maxime, est-ce que tu peux m'écrire un requiem, rien que ça?
Je pense qu'il il en avait un peu envie avant le Covid.
Oui.
Et je pense que le Covid a réactivé certaines choses dans sa tête en disant on n'a pas fait assez.
Décidément, ce Covid musicalement a amené pas mal de choses.
Bah, parce que tout d'un coup, on avait moins le droit de jouer.
Oui,
donc
ça.
On s'est dit, tiens, faut s'occuper.
Faut vous enfermer dans des pièces.
C'est ça.
Alors, on va guetter donc vos dates de concert. On va juste rappeler, Catherine, l'homme des Damps, donc ouvrage qu'on trouve partout. Mais très franchement, ça serait dommage d'aller sur les plateformes de streaming. Procurez-vous l'album, comme je l'ai dit plusieurs fois.
Voilà, il n'est pas sur les plateformes de streaming, de toute façon, comme ça c'est réglé.
Ben voilà,
il est par
réglé.
Exemple chez le magnifique disquaire Le Souffle Continue.
Absolument.
Ou sur le site de Natto, ou même à la Fnac, au prix vert pour l'instant, je crois.
Alors, et n'hésitez pas, et déjà c'est un album aussi à écouter et à feuilleter. Quand est-ce qu'on vous entend, indépendamment de cet album, votre prochain concert, Catherine?
Je pense que c'est avec Vincent Courtois et Sophia de Mansich.
Magnifique trio, voilà, qu'on a vu à Nevers.
Trio jeunesse. Et puis avec Julien Soro dans son Honnête, avec Andy Emler.
Non.
Oui, voilà, Delphine Do aussi.
Delphine, oui.
Et avec Andy Emler à Coutances, avec l'octoire de clarinette, la Horde.
J'y serai, on s'y verra. Donc, Maxime, est-ce que vous avez des dates de concert indépendamment de notre petit village préféré?
Oui, avec Samuel Thézé, on tourne pas mal un peu partout.
D'accord.
J'ai une pièce de théâtre aussi qui vient de commencer, là, où j'ai signé les musiques, je suis sur scène, qui est sur la malnutrition.
D'accord, c'est où? Est-ce qu'on peut vous entendre?
C'est au Funambule Théâtre.
D'accord,
et
c'est en ce moment?
C'est en ce moment, c'est les mardis, mercredis.
Très bien. Vous accompagnez toujours Nancy Houston?
Oui, et Christophe Alévèque aussi.
Et Christophe Alévèque, oui, tout à fait.
À la Cigale, on fait la Cigale, là. Donc c'est mon côté anard qui revient au galop.
Très bien. Alors donc, on rappelle, où est-ce qu'on peut se procurer l'album? Donc sur
là,
votre...
là, pour le coup, ouais, sur les plateformes.
Donc c'est quoi? C'est toutes les plateformes?
Toutes les plateformes, ouais.
Toutes les plateformes. On va se quitter avec un Sanctus, là, forcément, dans un requiem. La semaine prochaine... Alors d'abord, je vous remercie. Les deux, Catherine Delaunay et Maxime Perrin et Cécile Faou.
Mais on te remercie. On vous remercie,
et puis,
Jean-Marc.
À la technique, c'était Quentin qui était derrière la console, que vous reverrez peut-être derrière côté micro, peut-être la semaine prochaine, on va en reparler, puisque la semaine prochaine, nous avons le plaisir de recevoir. complètement différent. Ça sera très trash, hein, je vous préviens. Mettez même des bouchons d'oreilles si vous écoutez la radio, parce que ça va donner du son. C'est la flûtiste Delphine Joussin. À suivre Lusitania. Donc on se quitte là avec le Sanctus du Requiem pour Ali de Amen. Maxime Perrin. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et faites bien attention à vous. Ciao à tous.
À très bientôt.
Allegre FM 93.1.